Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1961-1962. Les 9 premières séances du cours, la tentation. Aujourd'hui, ambivalence, organe obstacle et variété des tentations. Enregistré le 22 janvier 1962.
J'ai étudié la semaine dernière le mécanisme de la double complication qui est à la naissance de la tentation. D'une part, de quelle manière l'envie suscitait l'interdiction, et deuxièmement, comment l'interdiction suscitait la tentation. Nous en étions au premier point, c'est-à-dire l'induction du veto par l'envie elle-même, et nous en cherchions les raisons. Et après avoir cherché ces raisons, nous avions cru les trouver dans quelques présupposés plus inconditionnels que les autres, et par exemple par la préférabilité de l'effort et de la liberté qui justifie le refus de la naturalité et qui paraît être le dernier irréductible. Et nous disions, pour terminer, et aujourd'hui pour commencer, nous le redisons, que la surnature en nous, c'est la force de dire non, de répondre non à ce qui sollicite le oui, de dire non au oui et non point de dire oui à oui. En somme, si vous voulez, les choses tentantes, les objets du plaisir me sollicitent pour me faire dire oui. Elles me conseillent, elles me recommandent persuasivement de dire oui par la voix du flatteur, par exemple. Les flatteurs veulent me faire dire oui, et le chant des sirènes, n'est-ce pas, qui veut également faire dire oui à Ulysse, le parfum de l'apparence et le bel incarnat de l'apparence, tout conspire à nous faire dire oui, et surtout ce beau fruit d'or dont nous avons tellement parlé et qui est l'objet immémorial de la tentation, si bien que entre l'objet tentant, la voix des sirènes, les paroles de miel du flatteur, le fruit d'or et nous, il y a une zone intermédiaire, l'intermédiaire de la zone sensible, de la zone affective, qui est l'intermédiaire par lequel passent les exhortations pressantes adressées à ce pouvoir arbitraire et capricieux de la liberté dont j'ai dit qu'il était le pouvoir de dire non, pour que cette liberté acquiesce, pour qu'elle consente, pour qu'elle dise oui au oui. Eh bien, sous ce jour, il apparaît que la résistance à l'envie, dont nous allons montrer qu'elle engendre elle-même la tentation tout à l'heure, cette résistance, et en somme, tient à une sorte de vouloir, à un contre-vouloir, qui est le vouloir véritable, et qui est là pour contrarier le consentement, pour que nous disions non, au contraire, pour obtenir ce que j'appelais, dans d'autres circonstances, le chiasme du oui et du non, le croisement du non et du oui, de façon à ce que nous ne fassions pas la chose attendue, de façon à ce que nous évitions la réaction primaire qui est, en somme, d'abonder dans le sens que nous indique, d'abonder dans la réponse affirmative, d'aller là où on veut nous faire aller, ou comme on dit vulgairement, de marcher. Mais après tout, marcher, c'est même employé absolument, est une très vilaine expression qu'il faut proscrire, et pourtant elle va bien dans le sens que nous disions, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'aller précisément là où on veut nous faire aller. C'est ce que nous appelions, d'un mot un peu bizarre, quand on emploie en ce sens, une induction. N'est-ce pas ? On nous induit dans ce sens. Et au contraire, par la liberté, nous faisons la chose étonnante, la chose surprenante, non conformiste, qui est d'aller dans le sens contraire. Et par exemple, quand il s'agit de l'objet tentant, nous nous interdisons de toucher, de manger, de répondre, et même de regarder. Et en général, nous résistons à cette invitation assimilante. Par exemple, le rire appelle le rire. Et même le sourire appelle le sourire. Le sourire fait sourire, même sans raison. Eh bien, celui qui reste de glace quand on lui sourit, au risque de ne pas paraître aimable, ou qui répond au sourire en faisant une grimace, ou qui répond au sourire par la grimace, ou en général qui ne répond pas aux œillades, aux signes d'intelligence par lequel dont nous avions parlé, je crois, dans une des premières séances, quand j'ai fait un tout petit commentaire très bref, je crois, de la Roussalka de Pouchkin, du poème, de la balade de la sirène de l'Ondine, qui fait des signes au vieux moine pour qu'il la rejoigne, qui lui dit « Viens à moi !» Et il lui fait signe, elle lui fait signe en peignant ses cheveux, avec les doigts et avec la tête. Eh bien, celui qui ne veut pas comprendre, n'est-ce pas, ces signes d'intelligence, qui veut dire pour tout homme moyennement intelligent, « Viens à moi, viens me rejoindre !» Celui qui ne veut pas les comprendre, et qui par conséquent se soustrait lui-même à ces invitations, se soustrait lui-même à l'attrait du plaisir, fait donc un acte de liberté. Voilà donc de quelle nature est cette résistance élémentaire que nous avons déchiffrée à l'intérieur même de l'envie, comme un élément même de cette envie, et qui lui résiste, qui est donc une résistance aussi bien à la contagion qu'à la suggestion et qu'à l'imitation, à tout ce qui est assimilation en général, résistance à la panique érotique, aux sentiments paniques et qui veulent m'assimiler aux autres, et qui sont tous des œuvres de liberté. L'homme qui a lui-même envie, qui ressent l'envie, s'il est un homme libre, passe son chemin. Il passe son chemin en dédaignant les sirènes et les filles fleurs, les filles de fleurs de l'agrément, et les enseignes lumineuses, et les fleurs de flamme au coin des rues, qui elles aussi clignent de l'œil et lui font signe pour qu'il se détourne de son chemin. Il résiste donc à tout ce qui veut l'aguicher. Voilà donc ce que, si vous voulez, y compris d'une manière élémentaire, le reflux secondaire à l'intérieur de l'invitation au plaisir. Mais ces raisons que nous avons essayé de donner, et qui, en dernière analyse, portent le nom de liberté, dont le nom est liberté, ces raisons n'empêchent pas que, en somme, le plaisir reste coupable tout de même en tant que plaisir et en tant qu'il plaît, comme nous disions, et en tant que plaisant, et que malgré tout, malgré ces raisons, eh bien, on est un peu ramené à ce que la vertu dormitive des somnifères, c'est-à-dire à une tautologie. Et il est mauvais parce qu'il est mauvais. Et on répond quand même, en un certain sens, on répond quand même à la question par la question. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, en analysant ce premier élément du mécanisme, ce premier rouage du mécanisme de la tentation, du complexe de la tentation, il apparaît que c'est la tendance elle-même. La tendance elle-même, fut-elle innocente, fut-elle de toutes les tendances la plus innocente, par le fait même qu'elle est une tendance, c'est elle qui est à réprimer en tant que contre-valeur, n'est-ce pas ? Par le fait même qu'elle est une tendance, elle suscite son propre veto. Toute tendance suscite chez un homme son propre veto, sa propre interdiction. C'est-à-dire, toute tendance suscite son interdiction immanente qui représente aussi, si vous le voulez, son remords élémentaire. Dans toute tendance, il y a une mauvaise conscience élémentaire, quand ce ne serait que sa conscience d'être une tendance. Toute tendance qui prend conscience d'elle-même et qui prend conscience d'être une tendance éprouve une sorte de mauvaise conscience, une honte d'elle-même. Elle est rendue imperceptiblement honteuse. Il y a donc un remords élémentaire, une honte infinitésimale, une honte imperceptible au cœur de la tendance. Une honte naissante qui est la conscience qu'elle a d'être tendance et qui, comme nous le disions, induit imperceptiblement la contre-tendance. Et ainsi, l'objet d'envie induit l'acceptation, et l'acceptation à son tour induit le reflux contrariant. Mais vous allez voir que ce n'est pas encore la fin des inductions et des sollicitations, et que l'homme est ainsi sollicité de tous les côtés, n'est-ce pas ? Tout le monde lui fait signe. Les sirènes d'abord, qui font les signes les plus clairs, et puis d'autres signes encore qui contrarient ces signes, et d'autres encore qui contrarient les seconds. Si bien qu'il est vraiment littéralement tiraillé de tous les côtés. L'influx, le reflux, et puis une réaction même contre le reflux, voilà tout ce que nous devrions débrouiller et étudier. Eh bien, appelons pour l'instant ce reflux qui est le veto, appelons-le sinon souci, du moins scrupule, ce qui est clair dans notre langage et d'ailleurs dans tous les langages, puisqu'en somme le souci se rapporte toujours à quelque chose d'objectif, qui est quand même un motif, une raison d'être inquiet, tandis que le scrupule, lui, ne se rapporte pas à une raison objective d'être inquiet, à un caractère surnaturel, gratuit, désintéressé, et souvent inexplicable autrement que pour des raisons morales, et par conséquent toujours immatériel, impondérable et pneumatique. Et ainsi, il apparaît, dans la tendance même, par le fait qu'elle suscite sa contre-tendance, que la naturalité de l'homme n'est jamais pure. Qu'elle n'est jamais pure, mais qu'elle n'est jamais entièrement naïve, entièrement innocente et ingénue, mais toujours assombrie par des nuages, que ce n'est jamais un ciel serein, mais qu'elle est toujours voilée par des ombres. Les Grecs, vous le savez, donnaient le nom de Némésis. Ils donnaient le nom de Némésis, qui n'est pas une véritable divinité mythologique, qui est plutôt une représentation morale, une allégorie morale de la philosophie grecque. Ils donnaient ce nom à la tendance, à la pudeur du plaisir, à la timidité de l'homme devant le plaisir et devant le bonheur. À vrai dire, je dis cela pour illustrer un petit côté de notre recherche, puisqu'en vérité, Némésis représente moins la phobie de la fruition que la phobie de l'abus de la fruition. C'est la phobie de son abus, non point la phobie de l'envie et du plaisir comme telle, mais la panique de l'abus de ce plaisir. Et par exemple, la peur, non point d'être heureux, mais d'être trop heureux. Némésis s'applique à ce surplus qu'on appelle le trop, à l'excès de bonheur par lequel l'homme semble défier les dieux. Et pourtant, on ne peut pas nier qu'il n'y ait un certain rapport entre cette timidité de l'homme grec à l'égard de sa prospérité et ce dont nous parlons aujourd'hui, bien que, comme je viens de le montrer, puisque pour montrer que c'est quand même pas un exemple excellent, ça n'est pas sans rapport, quoi que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Il s'agit donc probablement dans leurs idées d'un frein moral à l'outrance et à la hubris, comme ils disaient, à la démesure et un rappel à la modération. La jalousie des dieux symbolisait sans doute pour eux, chez leurs tragiques, chez leurs moralistes, chez leurs sages, il symbolisait cette force surnaturelle qui contrecarre et qui contrarie en quelque sorte la tendance à être heureux, le désir d'être heureux, et qui est en somme le juste milieu. Mais pourquoi faut-il que l'homme ait honte de son bonheur? Pourquoi se sentir coupable de son bonheur? Pourquoi cette force surnaturelle qui contrecarre et qui rend fautive la tendance à être heureux et qui lui donne le sentiment d'être coupable en général? Et on parle bien d'un bonheur insolent qui défie les dieux, mais derrière ces représentations, il se cache quelque chose, probablement. Derrière cette pudeur à l'égard de l'excès du bonheur, il se cache quelque chose. Sans doute, dans cette crainte de la punition, pour être trop heureux, les moralistes invoqueraient un impératif de modération, une loi de justice, n'est-ce pas, la dikai, la justice, et probablement, dans leurs idées, la loi qui mesure, le principe des médiétés, de l'intermédiaire, du juste milieu, comme on dit si bien, puisque dans le juste milieu se trouvent alliées l'idée de la justice et l'idée du milieu, n'est-ce pas, l'idée de donc morale de la justice et l'idée un peu quantitative de l'intermédiarité, l'intermédiarité et justice. Un métaphysicien parlerait à son tour peut-être d'une loi de l'alternative, de l'intermédiarité de l'homme. Eh bien, nous dirions dans notre langage, qui est si tantôt éthique, tantôt métaphysique, tantôt les deux, ou bien ni l'un ni l'autre, comme vous préférerez, nous dirons que le principe de cette némésis, ce serait plutôt justement cette pudeur qui est une œuvre de la liberté. Ce serait ce sentiment d'une dignité austère de l'effort et de la liberté qui est l'ultime inconditionnel. Mais laissons de côté les Némésis, puisque moi-même j'ai dit que ça n'était pas un exemple merveilleux pour ce que nous disions, mais simplement qu'il pouvait éclairer un aspect de la première tendance contraire à l'intérieur de l'envie. Et disons maintenant que si toute envie, toute tendance implique en elle-même son propre veto immanent et sa propre contre-tendance, c'est encore aussi pour une autre raison. C'est que la tendance n'est jamais instantanément satisfaite et ni même toujours facile à satisfaire. Et que par conséquent, elle implique déjà en elle-même la distance, indépendamment de la prohibition morale, ce que nous appelions la prohibition scrupuleuse, n'est-ce pas, par opposition à l'inhibition, indépendamment de la loi qui me défend d'aller à mon plaisir, simplement parce que c'est mon plaisir qui me défend de cueillir la grappe de raisin dont j'ai envie. Indépendamment même de cette loi morale et gratuite, il y a la distance infinitésimale qui est, elle, non point de l'ordre de la prohibition, mais de l'inhibition, dans le langage que nous nous sommes fabriqués, pour être plus clair. Non point dans l'ordre du scrupule, mais du souci, non point de la prohibition morale, mais de l'inhibition sociale et matérielle, par exemple, les difficultés matérielles. Ceci, du reste, est visible en général dans la tendance, par le fait même qu'elle tend. Et c'est la différence entre une tendance et une inclination. Dans l'inclination, et quand même on prononce ce mot d'inclination, il semble qu'en le prononçant, on ne fasse exception que de la pesanteur, n'est-ce pas, qui nous fait tomber jusqu'à ce que nous rencontrions un plan, un niveau qui nous arrête, n'est-ce pas. S'il n'y a pas d'autres obstacles, l'homme tombe, glisse sur la pente savonneuse jusqu'où il doit glisser, jusque vers le bas. Dans la tendance, il y a autre chose, puisque le verbe tendre applique les énergies qui sont tendues, bandées en vue d'un effort et une résistance à vaincre. Et même si la résistance n'est pas toujours visible, il y a toujours la distance élémentaire. Le fait que, puisqu'il y a tendance, c'est que l'objet de satisfaction est imperceptiblement aléatoire, n'est-ce pas ? Il a toujours un caractère une sorte d'obstacle infinitésimal. Dans le geste même de l'appréhension, il y a un risque infinitésimal d'échec. Même dans le geste pour cueillir la grappe de raisin, n'est-ce pas ? Dans le geste par lequel l'homme cueille la grappe de raisin qui est à sa portée, par le fait même qu'il faut qu'il l'accueille, que c'est un geste de préhension, par le fait même, il y a une petite une distance et donc un échec qui est possible. Eh bien, cette possibilité, par elle-même, explique que il y a déjà dans la tendance un arrêt, un arrêt possible, et cela est encore plus visible dans des envies, des désirs, qui sont un objet privilégié de la tentation, et sur lesquels je reviendrai très souvent, à cause de cela, je veux dire le domaine sexuel, n'est-ce pas ? Dans le domaine sexuel, où l'objet d'envie est la femme, n'est-ce pas ? L'autre sexe, et où toutes sortes d'obstacles matériels, sociaux, moraux, de difficultés scabreuses, font que la volupté n'est pas tellement à ma portée, même si elle est à la portée de ma main, n'est-ce pas ? Elle ne dépend pas tellement de moi, comme diraient les stoïciens. Et il y a donc, indépendamment même de la prohibition, il y a de bonnes raisons qui font que ce geste de préhension est assez scabreux, n'est-ce pas ? Et que, par conséquent, sans y mêler la morale, on comprend comment, dès maintenant, le reflux est à l'intérieur de l'influx. Eh bien, ça, c'est la première partie, puisque j'ai dit que, en vérité, on pouvait diviser ce mécanisme en trouvant deux rouages. Nous avons montré jusqu'à présent comment l'envie suscite l'interdiction. Et maintenant, il nous faut montrer comment, en deuxième lieu, l'interdiction suscite la tentation proprement dite. Comment l'interdiction est le ressort de la tentation. Seulement, évidemment, pas dans le même sens, car l'envie est quand même un motif de l'interdiction. Un motif souvent gratuit, un motif souvent indicible, de nature purement morale. Pourquoi me priver d'une grappe de raisin, n'est-ce pas, dont j'ai envie? Si le raisin ne m'est pas déconseillé pour la santé, évidemment, ça, c'est une raison, évidemment, si le raisin est mauvais pour moi, c'est un motif. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons, quand nous parlons d'un veto. Nous parlons d'une interdiction morale, donc non fondée. Mais cette raison, ce motif, si impalpable qu'il soit, est quand même un motif. Le motif lui-même. Et ce motif, on peut même dire son nom, et nous avons essayé de le dire en disant que peut-être ce motif secret, c'était l'abandonnement à la volupté, à la sensualité, la complaisance, à la concupiscence, aux facilités. Et en général, c'était qu'un homme digne de ce nom ne doit pas céder à la facilité. Il est indigne d'un homme d'aller à la facilité, d'aller dans le sens qu'on lui indique, simplement parce qu'une sirène est là qui nous indique ce chemin. Un homme digne de ce nom fait le contraire, devrait faire le contraire. Eh bien, maintenant, pour parler de la deuxième partie, la façon dont l'interdiction à son tour suscite la tentation n'est plus du tout de l'ordre du motif. Et c'est simplement une cause, n'est-ce pas ? Une cause, parce que l'un est avec l'autre dans le rapport de la cause et de l'effet, mais on ne peut pas dire que l'une soit vraiment la cause de l'autre. Et d'autre part, il apparaît tout de suite que cette tentation est comme la revanche de l'envie contestée. L'envie a été contestée par l'interdiction, et la tentation, qui est suscitée par l'interdiction à son tour, est comme une revanche ironique, dérisoire, de l'envie une fois qu'elle a été contestée. Je disais donc cause et non point motif, d'abord parce que cette cause est inavouée et inavouable. Un homme ne peut pas avouer qu'il a vraiment envie de ce bijou parce qu'il ne peut pas l'acheter. C'est une raison tellement capricieuse, tellement indigne d'un homme qu'on ne peut pas l'avouer. En principe, quand on lui demande, il dit qu'il a envie de ce bijou parce qu'il en a envie, parce qu'il est très beau. Et le philosophe qui le regarde, tenté par le bijou inaccessible, sait qu'il est tellement tenté justement parce qu'il ne peut pas l'acheter. Donc, cette raison véritable, il n'est pas une raison, c'est simplement une cause, et cette cause ne veut pas être avouée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de caractère idéologique. Et ainsi, pour récapituler ce qui a été dit jusqu'à présent, l'envie induit le veto, qui transforme l'envie en tentation. L'envie et le veto, à son tour, le transforment en tentation, c'est-à-dire en envie contrariée. Qu'est-ce que c'est qu'une tentation ? C'est une envie contrariée. C'est une envie gênée, entravée, et par le fait même, rendue passionnelle. Elle est rendue passionnelle par l'empêchement. Elle est rendue passionnelle par la gêne même qui l'exalte. Vous voyez donc, maintenant que le mouvement d'oscillation est d'abord complet, de quelle manière, enfin, l'homme, on peut dire qu'il est au centre de ce jeu d'aller et retour, de ce jeu de navette perpétuelle. L'objet tentant lui fait envie, l'envie suscite l'interdiction suscite la tentation, et dans la tentation elle-même, il y a une vibration continue, une augmentation de la tentation par elle-même, qui fait que le mouvement d'aller et retour et d'oscillation ne fait que continuer à l'intérieur de la tentation, du mouvement qui me porte vers l'objet au refus rétractile et à la tentation elle-même et finalement à la réaction contre cette tentation. Et ainsi, pour résumer de nouveau, il semble que cette gêne elle-même qui exalte l'envie de telle manière que la tentation est l'envie interdite et par conséquent décuplée et exaltée par cette envie elle-même, mais comme tout à l'heure nous disions, c'est le raisonnement qui nous oblige à parler ainsi. Comme tout à l'heure, nous disions que toute tendance suscite, peu ou prou, une contre-tendance. Un contre-courant, qui est le contre-courant du veto, lequel, entre parenthèses, remarquez-le, ne suscite pas à son tour une tendance spontanée, une envie contraire, mais simplement la crainte d'abuser, qui est un scrupule moral. Donc, comme toute tendance, plus ou moins, suscite ce contre-courant, il s'ensuit que toute tendance, chez l'homme, est une tentation infinitésimale. Enfin, puisque toute tendance implique ce veto infinitésimal, et que c'est ce veto qui transforme l'envie en tendance, il s'ensuit que toute tendance est une tentation naissante pour l'homme conscient, et pour l'homme toujours scrupuleux. Allons plus loin encore, disons que l'homme n'a que des tentations. En vérité, on peut bien parler de ces tendances en parlant d'un homme abstrait, d'un homme soustrait à son milieu social, à ses souvenirs moraux, à son expérience, un homme devenu comme un crabe, c'est-à-dire un homme réduit à un tube digestif et à un système nerveux. On peut donc étiqueter et classer ces tendances, mais c'est un homme abstrait. L'homme réel est un homme pour lequel toute tendance est déjà une tentation à quelques degrés. Ou encore, dans un autre langage, nous dirions que l'homme n'a même pas le temps d'avoir une envie. Il n'a pas le temps d'avoir une envie à l'état pur. À peine l'envie s'est-elle formulée en lui, aussi rapidement qu'elle se formule, l'envie est déjà devenue une tentation. Et l'envie est devenue une tentation à peine née, et comme la gourmandise elle-même, n'est-ce pas, qui dès sa naissance est contrariée par une loi non écrite qui nous empêche de faire tout ce que nous avons envie de faire, qui nous empêche de manger ce que nous avons envie de manger. Si bien que la moindre gourmandise, quand l'homme n'est pas un être purement spinal, et il ne l'est jamais, la moindre gourmandise est déjà toujours à quelques degrés cette tentation. Si bien qu'en définitive, il apparaît que tout ce que nous détaillons maintenant chronologiquement, puisqu'il faut bien du temps pour l'exposer, est donné ensemble, bien entendu. Dès sa naissance, la tendance est déjà une tentation, parce qu'elle est déjà interdite par elle-même. Elle s'interdit elle-même. Donc prenez tout ce que je vous ai dit comme un déroulement pédagogique, n'est-ce pas, nécessité par mon exposé, qui m'oblige à dire, une par une, successivement, des choses qui sont en réalité données ensemble. Il n'y a donc pas de passage de l'envie à la tentation, par l'intermédiaire du veto, mais il y a un virement immédiat d'une envie qui est toujours, dès sa naissance, assombrie par l'ombre du scrupule. J'espère que c'est assez clair. Ce qui est vrai, remarquez-le, à cet égard, de l'objet tentant, c'est-à-dire du plaisir, de la volupté, l'objet de la fruition, est relativement vrai aussi de l'apparence qui s'offre à l'intelligence comme un renseignement, comme une information en vue de son expérience. Mais peut-être sera-ce instructif pour nous de montrer les différences qu'il y a à cet égard entre la tentation du plaisir, objet de fruition, et, à sa manière, l'espèce de tentation que représente, dans l'ordre non point du vécu, mais au stade représentatif, dans l'ordre intellectuel, l'apparence en tant que renseignement pour la connaissance. Et vous verrez tout de suite que, alors que dans la discipline de l'apparence, dans l'école de scepticisme et de méfiance à laquelle l'homme se convie lui-même par rapport à l'apparence, ce qui domine, c'est la mise en garde. Tandis que, par rapport au plaisir, objet de tentation, ce qui domine, c'est quand même l'envie, n'est-ce pas ? Comme les mots eux-mêmes l'indiquent suffisamment. Bien sûr, il y a toujours, même dans l'apparence, une espèce de résistance à l'expérience. On a beau savoir qu'un sourire est trompeur, que des paroles de miel sont perfides, c'est quand même bien agréable à entendre, n'est-ce pas ? Et un sourire est quelquefois agréable à regarder. Et le plus grand philosophe du monde, enfin, je vois assez la pensée de Pascal, et la pensée que Pascal n'a pas écrite, mais qu'on pourrait écrire à sa place, le plus grand philosophe du monde, n'est-ce pas, non pas sur une planche de bois, mais devant une jolie femme qui lui fait un sourire, répond aussi par un sourire, bien qu'il sache qu'un sourire n'est qu'un sourire, et que souvent le sourire est sordide, c'est un sourire flatteur. Donc, il y a, et certainement, même par rapport à l'apparence, un invincible préjugé favorable à cette apparence, en faveur du sourire, et, par exemple, la beauté reste persuasive, même après qu'on a reconnu la stupidité de cette beauté. C'est même fréquent dans la vie. Une fois qu'on sait qu'elle est sotte, eh bien, elle continue à nous persuader. Mais, même dans le langage que j'emploie, il apparaît que malgré cette résistance un peu irrationnelle, n'est-ce pas, de l'apparence aux déceptions qu'elle nous promet, il apparaît même ici que c'est quand même la méfiance qui l'emporte et qui domine, car il s'agit d'une expérience cognitive, d'une expérience pour la connaissance, et dans laquelle la part de l'attrait subi est incomparablement moins grande. Il est vrai que ça se mélange, et que l'exemple que j'ai donné n'est pas excellent, parce que quand il s'agit du sourire, d'une beauté, et tout à l'heure je parlais des femmes et de leur sourire, et nous glissions de l'expérience dans quelque chose d'autre, n'est-ce pas, qui est au contraire le plaisir, la volupté, et autre chose. Il faudrait donc plutôt parler des arcs-en-ciel, n'est-ce pas, des démoires et des reflets dans l'eau, et les lueurs du couchant, n'est-ce pas. Un beau couchant ne signifie rien, et malgré mes soucis, par exemple, n'est pas suffisant pour éclairer mes soucis et la tragédie de l'existence. Et donc, il s'agit donc des souvenirs d'échecs, de raisons précises tirées de l'expérience antérieure, du passé, et qui militent en faveur de la méfiance. Et si bien que l'apparence trompeuse qui sollicite mon adhésion implique surtout la mise en garde. Et avant tout, cette mise en garde. Beaucoup de sagesse et beaucoup de raisons ne sont pas nécessaires pour savoir qu'un sourire trop aimable nous réserve bien des déceptions et que, en somme, la sagesse et la prudence consistent à anticiper sur ces déceptions en demeurant de glace, comme tout à l'heure nous le disions, devant ce sourire. Donc, la dose, lorsqu'il s'agit de l'apparence, et non point du plaisir, la dose de l'attrait est imperceptible. Le donné sensible est évidemment, à l'état primaire, une invitation à adhérer. Il nous demande de croire, et est une invitation à croire, une sollicitation adressée à notre créance, et secondairement, une invitation à la méfiance. Mais la méfiance, chez un homme à tant soit peu raisonnable, l'emporte de beaucoup. Elle submerge tout. Elle recouvre la créance. Elle emporte la première adhésion, n'est-ce pas ? Et celui qui vraiment a été la dupe du sourire est un ego pour lequel nous n'avons pas de considération. Je les vois, il n'est pas digne du nom d'homme. Donc, ce qui l'emporte et de beaucoup, c'est la méfiance raisonnable et secondaire qui nous interdit de croire aux données sensibles et de croire au clinquant, de croire à la verroterie de l'apparence. Eh bien, dans le cas de la fruition du plaisir, c'est l'inverse. C'est-à-dire dans le cas de la tentation proprement dite. J'entends bien le plaisir et non plus l'apparence. L'apparence, renseignement trompeur, renseignement spécieux, illusoire, comme peut l'être un beau coucher de soleil. Mais les hommes raisonnables disent, paraît-il, méfiez-vous, il pleuvra demain, n'est-ce pas? C'est le signe que demain il fera mauvais temps. Mais naturellement, le coucher de soleil n'a pas de caractère ontique, n'est-ce pas? Un coucher de soleil ne m'enveloppe pas de tous côtés. Ce n'est point comme le plaisir qui est, lui, une nature ontique, n'est-ce pas, qui concerne mon être. Remarquez-le, il s'agit de fruition. Fruit veut dire jouir, avec ce que ce mot comporte d'ontique, en quelque sorte. Tandis que l'apparence me demande simplement d'adhérer. Elle me demande l'adhésion, comme quelqu'un qui me demande de croire. Et adhérer implique, comme le verbe l'indique un peu, quelque chose de superficiel, une tangence, un simple contact, un effleurement. Adhérer à l'apparence, ça ne veut pas dire la mettre dans sa poche, la manger, la dévorer, la digérer, mais ça veut dire y croire, croire qu'elle est vraie, n'est-ce pas ? Et donc, par rapport à mon existence, il ne s'agit que d'un effleurement superficiel et en quelque sorte périphérique, dans lequel la méfiance est déjà préformée. Quand on me demande d'adhérer, et par le fait même que l'adhésion n'est qu'un contact, il semble que la méfiance soit toute prête à naître, le scepticisme est en général. Et au contraire, lorsqu'il s'agit de la fruition d'un fruit, ce que ces mots évoquent, comme lorsque Platon dit quelque part, je crois que c'est au livre 9 de la République, il emploie le verbe carpustai, qui veut dire la même chose que fruit en latin, c'est-à-dire jouir. La vérité et le bien n'est point seulement une chose à laquelle on croit, n'est-ce pas ? N'est pas simplement quelque chose qu'on croit être vrai, n'est pas seulement une vérité, mais il est quelque chose qu'on ingère, qu'on absorbe, n'est-ce pas ? Quelque chose qui est un objet qu'on avale, qui est comme un aliment, ou pour employer un langage du XVIIe siècle, qui est comme une viande spirituelle, vivendum, n'est-ce pas ? Une chose qui est une nourriture de l'esprit. Ainsi, l'assimilation, l'intégration à la substance propre, l'ingestion, voilà les idées qu'enveloppe même la pensée du plaisir. C'est-à-dire une identification à la chose du plaisir, comme celui qui veut en jouir, par homéose, par homéosis. Et d'autre part, mais ça revient à dire la même chose, avec d'autres mots, sous une autre forme, le plaisir est une réalité enveloppante. Et une réalité enveloppante qui me sollicite de tous les côtés à la fois, qui fait vibrer en moi toutes les cordes ensemble, puisque aussi bien il est un objet de jouissance. Et comme vous le savez d'ailleurs, cette tentation est si complète que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, eh bien le fruit défendu est non seulement un objet de jouissance proprement dit, puisque il demande à être dévoré. Ce fruit nous dit dévorez-moi, mangez-moi, n'est-ce pas ? Que ce plaisir, que ce fruit devienne consubstantiel à ma substance. Et par surcroît, il est une promesse de connaissance. Donc, il a tous les avantages à la fois. Il est à la fois une promesse de vérité et en même temps un objet de jouissance. Voilà donc la différence que je vois immédiatement entre les deux. Et en échange, au contraire, il apparaît que le veto qui m'interdit de goûter au plaisir n'est point, comme dans le cas de l'apparence, une interdiction fondée sur des raisons, une interdiction qui m'induit à la méfiance pour des raisons, mais c'est un veto, comme nous le disions, surnaturel et qui n'a pas de raison objective. Nous avions dit la semaine dernière, en parlant sans doute irrévérencieusement de la Genèse, mais vous allez voir que ce n'est pas manque de respect, je crois pouvoir le montrer au moins la semaine prochaine, que Dieu ne donne pas ses raisons, n'est-ce pas ? Et que, en apparence, l'interdiction de manger le fruit est une interdiction qui n'est point fondée et qui n'est pas fondée sur des raison. Et par conséquent, qui paraît à sa manière irrationnelle. Et c'est la volonté de Dieu qui fait la valeur éthique, c'est elle seule qui fait la valeur éthique de l'abstention, de l'interdiction, et qui rend méritoire l'obéissance à la prescription divine. Et ainsi, il nous semble immédiatement que dans la tentation, ce qui domine, c'est la crainte quand même, comme le mot l'indique. En définitive, une tentation est une forme d'envie, dans laquelle l'interdiction est ésotérique, n'est-ce pas ? Elle est ésotérique, il faut la chercher pour la trouver, et quand on n'analyse pas par la réflexion, on peut être dupe et croire que c'est une des formes sous lesquelles l'homme désire en général des objets. Donc, exotériquement, et du dehors, et en même temps, parce que c'est la dominante de la tentation est un désir de volupté. Mais secondairement, c'est-à-dire ésotériquement, c'est le contraire. Et ainsi, vous voyez qu'il n'y a pas non plus une ressemblance entre l'influx et le reflux, puisque le reflux a un caractère moral, au lieu que la tentation qui est développée par l'interdiction, elle n'a aucunement le caractère moral, bien au contraire. Elle a même un caractère, à cet égard, hautement immoral. Et ainsi, l'apparence, une fois qu'elle est critiquée par une critique scientifique, apparaît comme sujette à caution. Et inversement, le plaisir, une fois qu'on a reconnu qu'il n'est qu'un plaisir et qu'il faut s'en méfier, non seulement n'est pas sujet à caution, mais ce qui est le comble de la folie, le comble de la déraison, il suscite en moi une envie redoublée, une envie dérisoire qu'on appelle la tentation, par le fait même qu'il m'est interdit. Et d'abord parce que il est un plaisir qui me fait vibrer en moi toutes les cordes, et en second lieu parce que le veto qui me l'interdit ne peut pas toujours donner ses raisons, et qu'en général il n'a pas de caractère utilitaire, mais un caractère ni raisonnable, mais un caractère désintéressé et surnaturel. Ceci nous permet maintenant de définir nettement, puisque nous en sommes au deuxième rouage de notre mécanisme, la nature ambivalente de la tentation. Le barrage qui est en travers de l'impulsion, le barrage qui l'empêche de déboucher, paradoxalement, exalte l'homme de désir. Et il le rend non seulement honteux, mais encore il le rend passionné. L'homme devient non seulement honteux et passionné, tel est l'effet imprévisible, l'effet contrariant de l'interdiction. Ainsi, l'inhibition, qui est le barrage, devrait m'empêcher d'accéder à l'objet, devrait m'empêcher le passage, tout au moins pour quelqu'un qui ne tient compte que des lois de la mécanique. Pour quelqu'un qui ne tient compte que de ces lois, le barrage empêche de passer. Seulement, il y a des lois qui ne sont pas les lois de la mécanique et qui mettent en jeu la liberté de l'homme, les caprices de l'homme, et qui expliquent pourquoi ici le barrage, loin de m'empêcher de passer, au contraire, me donne une envie redoublée de passer. C'est ce que nous appelions l'effet de la prohibition, qui est le trouble fait qui rend l'objet de désir plus tentant. À cet égard, on peut dire que cet objet joue le même rôle que l'obstacle dans la passion romanesque. L'obstacle passionne l'amour en l'empêchant de passer. Et l'obstacle invisible de la loi aiguise, exalte et décuple l'envie. Et si nous parlons ici de l'obstacle, ce n'est point pour de vaines raisons, c'est parce que, en général, la tentation est immédiatement romanesque. La tentation est naturellement romanesque, puisqu'il n'y aurait pas de roman s'il n'y avait pas des envies empêchées. C'est l'empêchement à l'envie qui explique le roman. Donc, l'obstacle qui passionne l'amour, et en le rendant romanesque, est le même qui passionne l'envie en faisant une tentation. Et c'est pourquoi on ne peut pas étudier l'un sans étudier l'autre, et pourtant il faudra bien le faire, parce que nous n'en finirions jamais. C'est ainsi que, par exemple, Hippolyte est une tentation pour Phèdre, et en général, Mélisande, de la même manière, est une tentation pour Péléas. Parce que des obstacles les séparent l'un et l'autre, l'une et l'autre, de l'objet aimé. Obstacle qui s'appelle, dans un cas, l'inceste, dans un autre cas, l'adultère, mais enfin qui font que l'objet aimé est inaccessible, qu'on ne pourra pas l'épouser. Et qui donc transforment l'envie en une tentation, la rendent donc passionnelle et dramatique. Eh bien, c'est là une loi qui est très générale, une complication paradoxale, une complication dialectique par excellence, la complication humaine, à laquelle je donne parfois, souvent même, probablement même un peu trop souvent, en m'inspirant de Bergson, qui parle d'autre chose, parle pas du tout d'Hippolyte et de Mélisande, mais il parle de l'œil, et de la vision dans l'évolution créatrice. Et j'appelle cela la loi de l'organe-obstacle, la loi de ce qui est à la fois organe et obstacle, de l'antithèse qui contredit l'attrait. Cette loi, d'ailleurs, elle est valable pour l'existence en général, pour l'existence personnelle et pour les organes sensoriels. Mais lorsqu'elle est une loi de la vie, lorsqu'elle est une loi de l'existence, elle aboutit à des structures stables. Par exemple, la mort est l'organe-obstacle de la vie. C'est-à-dire que la mort est l'obstacle à la vie, puisque la mort est la fin de la vie, quoi, et la mort est la négation de la vie, et ce que tout homme redoute par-dessus tout. Mais en même temps, ça c'est le côté exotérique, la vérité de la palisse, n'est-ce pas, la plus évidente. Mais à côté et dessous, il y a une vérité philosophique, secrète, cryptique, mais pourtant bien facile à trouver, c'est que cette négation de la vie est la condition même de la vie, car celui qui ne meurt pas ne vit pas. Les conditions pour vivre, c'est le pouvoir mourir. Et par conséquent, la mort, qui nie la vie, est en même temps l'affirmation de la vie, la condition qui fait le vivant. Seulement, dans ce cas, l'association paradoxale, l'alliance paradoxale de la mort et de la vie, donne naissance à un composé stable, viable, qu'on appelle l'homme vivant, l'homme à deux pattes, n'est-ce pas, l'homme réel, l'homme viable et stable, dans lequel la négation est simplement implicite, secrète, virtuelle et analysable seulement pour une analyse réflexive. Au lieu que nous ne parlons pas de ces composés, de ces alliages stables qu'on appelle une personne, une existence, et une personne qui nie pour s'affirmer, une existence vouée à la mort pour pouvoir exister, nous parlons de la tentation, qui elle, au contraire, n'est point stable ni viable. La tentation qui est un drame tendu, un tiraillement, dans lequel le barrage peut être efficace, en effet, et boucher l'accès de la tendance vers son objet, et dans lequel, en somme, même la victoire de la tendance n'est jamais sans remords, sans regret et sans honte. La tendance reste contestée, même lorsqu'elle a atteint son objet. Aussitôt que Adam a atteint la pomme, il est chassé du paradis. Et il commence une existence précaire en travaillant le sol, et puis les aventures commencent, les meurtres, l'instabilité. Donc l'obstruction de l'affirmation par la négation dans l'organe obstacle de la tentation et d'obstruction crée une instabilité passionnelle. Et rien qui ressemble à une structure organique. Et pourtant, nous comprenons mieux maintenant. Je crois que même, enfin, il me semble que c'est en parlant que j'en ai plus nettement conscience, la raison pour laquelle la tentation joue un rôle si grand et pourquoi l'homme désire tellement être tenté, c'est justement parce que dans la tentation, l'homme aiguise, rend actuelle la loi de l'organe obstacle dont il ne s'apercevrait pas dans la suite des jours, n'est-ce pas ? Un homme qui vit tranquillement ne s'aperçoit pas que la mort est la condition de la vie. Il vit, voilà tout, n'est-ce pas ? Il n'est sensible qu'à la positivité exotérique, affirmative de son existence. Au lieu que la tentation dans laquelle l'homme aspire à ce à quoi il répugne, est attiré par ce qui le repousse, la tentation est un raccourci romanesque, un raccourci convulsé de la vie. Un raccourci dans lequel la vie apparaît sous sa forme la plus intense et la plus dramatique, et par conséquent particulièrement humain. L'antithèse qui contredit l'attrait le rend encore plus attrayant. Et ainsi, la négation à son tour est la condition dérisoire du désir, comme la mort est la condition de la vie, mais la mort est la condition implicite et permanente de la vie, sans que j'aie besoin de courir des aventures, et je puis même ne jamais m'en apercevoir. C'est en philosophant sur la vie que je m'en aperçois. Au contraire, la négation devient la condition dérisoire du désir quand je suis tenté. Quand, dans des occasions, des occurrences dramatiques, passionnées, que l'homme fuit et recherche en même temps. C'est là l'ironie de toute ambivalence. Que nous avions dit un mot au début, alors qu'il aurait fallu le dire aujourd'hui. Quand je l'ai dit, c'était probablement trop tôt, lorsque j'ai parlé de l'attrait vertigineux du vide. L'homme attiré par le vide, nous avons aligner quelques considérations sur l'attrait inexplicable de ce vide dangereux, et en cherchant les raisons pour lesquelles la tentation était toujours liée à cet attrait pour le bas, pour le vide. Mais remarquez que cela, c'est le cas même de la mort, et justement d'une des tentations dont il nous faudra parler en son temps, dont je ne parle pas encore aujourd'hui, mais je suis tout près d'en parler, et qui est la tentation de la mort elle-même. Non plus la tentation du fruit, du plaisir et de la volupté, mais la tentation de la mort elle-même, qui est la condition de la vie. Et qui explique, par exemple, le désir qu'a l'homme du néant. Le désir du néant, l'attrait du néant, le jeu avec le péril de mort que l'homme s'amuse à exalter dangereusement. C'est-à-dire que l'homme joue à exalter dangereusement ce qui est la condition permanente de son existence pour la passionner. Pour passionner l'existence, pour la rendre aventureuse. Et donc, en jouant avec la mort, il s'amuse à décomposer ce complexus contradictoire de positivité et de négativité, de plus et de moins, dont notre vie est faite. Il le décompose pour le rendre plus intense. Et il y aura donc finalement une tentation romanesque, dramatique et très intense de la mort, dans lequel s'affirme justement par la décomposition de l'organe obstacle en obstacle et en organe, dans lequel s'affirme justement le caractère dramatique de la vie et le fait qu'elle mérite malgré tout qu'on la vive. Elle mérite que nous l'éprouvions et que nous la vivions. Et ainsi, on peut bien dire que cet empêchement qui, logiquement, si nous étions des êtres logiques, devrait nous décourager, n'est évidemment pas une motivation rationnelle. Et en ce sens, on dira que la tentation est bien plutôt immotivée. Elle n'a pas de motif. C'est l'abstention qui serait motivée. Et c'est l'abstention qui est motivée, mais non point l'exaltation du désir elle-même. Et ainsi, l'homme a envie parce qu'il est empêché, et entend et qu'il est empêché. Et nous verrons plus tard, peut-être même la prochaine fois, qu'il arrive même que l'homme n'est véritablement tenté que dérisoirement, que lorsque l'objet est décidément et définitivement inaccessible. Il attend que l'objet soit devenu inaccessible pour éprouver à son égard une tentation platonique, une tentation posthume, une tentation rétrospective. Par exemple, les hommes qui obscurément attendent que l'occasion soit passée pour en avoir envie. Ils ne mettent pas la main dessus quand elle est une occasion, mais ils attendent obscurément on ne sait quoi, et pourtant on sait bien quoi, ils attendent que l'occasion ne soit plus à leur portée. Eh bien, ils attendent qu'elle soit devenue inaccessible pour en avoir envie. Il y a là aussi un mécanisme très, très complexe qui rend la tentation souvent un peu platonique. D'une manière ou d'une autre, la tentation est le veto et la contradiction que nous appelions la contre-tendance est le précieux épice de la tentation. Il est le piment de cette tentation. L'homme, en éprouvant les affres de la tentation, connaîtra la passion énergique et dramatique parce que contestée. Et de là, ce caractère toujours déraisonnable, contrariant, capricieux, irritant de la tentation de l'homme, tenté par le bien d'autrui, par la femme du voisin, par la tartine du voisin, enfin, ce qui appartient à l'autre, et dédaignant sa femme à lui, parce que c'est la sienne, et convoitant celle de l'autre, parce que c'est celle de l'autre, comme un enfant pervers, comme un enfant capricieux, comme un enfant qui fait des caprices. Et uniquement parce que le larcin est interdit, parce qu'une loi interdit de convoiter la tartine de son frère. Pascal a dit cela, non pas dans le même langage, vulgaire, mais vous trouveriez dans les pensées sur le lièvre, dont un chasseur ne voudrait pas si on le lui offrait, vous trouveriez quelque chose un peu analogue à ce que je dis maintenant. Nous allons maintenant essayer, ce que je ne fais pas souvent, mais je vais essayer de le faire, parce que chemin faisant, nous glanerons des idées, des vues que nous n'avions pas encore rencontrées jusqu'à présent. Nous allons essayer de casser les tentations. et je vais les classer selon deux principes, mais ne vous effrayez pas, ce ne seront pas des classifications qu'on puisse mettre sur des colonnes. Elles sont très confuses, très nébuleuses, et il vaut même mieux qu'elles le soient, parce que nous ne faisons pas de l'histoire naturelle, et on ne classe pas les tentations comme on classe des coléoptères. Nous les classerons d'abord selon les variétés du désir, et ensuite selon les variétés de l'interdiction, puisqu'aussi bien l'envie et le veto sont les deux éléments contraires qui se combattent dans la tentation, et en se combattant la crée, puisque j'ai montré que la tentation n'est pas une synthèse, qu'on ne peut pas synthétiser et concilier le veto et l'envie, mais qu'elles se combattent dans une tension indéfinie. Eh bien d'abord, essayons de classer la tentation d'après le mode du désir, et avant de les classer d'après le mode de l'interdiction. Il y aurait d'abord à la limite inférieure, si on peut dire, des tentations qui sont à peine des tentations, qui méritent à peine ce nom, dans lesquelles l'élément de l'envie est tellement naturel et tellement universel qu'il préexiste de beaucoup à l'interdiction et que, en général, cette envie, c'est en général un instinct biologique ou tout au moins, c'est une envie qui a un fondement biologique ou physiologique et qui préexiste à la tentation. Dans ce cas, la tentation a donc comme fondement objectif l'instinct. C'est-à-dire que l'objet tentant est un désirable universel, une chose universellement désirée. Par exemple, les aliments pour un être qui se nourrit, n'est-ce pas, pour un être trophique, pour un être qu'on réduit à son tube digestif, n'est-ce pas. Pour cet être-là, les aliments sont objets de tentation ou ne le deviennent qu'à partir du moment où l'homme en est privé. C'est donc la frustration et la privation qui est immédiatement la cause de la tentation, mais en général, il n'y a pas de nuance dans cette tentation tout à fait élémentaire. C'est le plan des besoins. Les besoins sont-ils vraiment des tentations ? Dans le besoin sexuel ou alimentaire comme tel, considéré comme tel, l'empêchement joue un rôle secondaire. L'envie devient un besoin par la frustration, mais ici, l'obstacle est matériel. Dans le plan que j'envisage, sur le plan que j'envisage, l'obstacle est purement physique et ne ressemble en rien à un scrupule. Donc, dans notre langage, nous sommes ici sur le plan non point du débat, mais du combat. Et dont nous savons qu'il n'est point le plan de la tentation. C'est plutôt le supplice de Tantale, n'est-ce pas ? Tantale a faim. Tant à la fin, et voudrait bien saisir les fruits qui s'offrent à lui, boire l'eau qui fuit ses lèvres, il est affamé, mais il n'y a pas de problème moral pour lui. C'est pas un problème moral, ou comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui, ce n'est point une problématique. Ce n'est pas mieux qu'un problème d'ailleurs. Ce n'est point, la situation de Tantale n'est point problématique. Elle n'a pas le caractère éthique. C'est un problème matériel, comme nous l'avons dit, puisque, en somme, Tantale n'est pas libre. Donc, un homme affamé n'est point un homme tenté. Or, c'est de cela que nous parlons en ce moment. Donc, sur le premier plan élémentaire où nous nous sommes placés, la tentation n'est pas encore véritablement une tentation, car il n'y a pas de problème moral, mais simplement une famine. Vous avez compris que pour qu'il y ait la tentation puisse naître, il faut que d'abord, que à l'obstacle matériel, se substitue le veto moral. L'interdiction morale, que notre liberté soit laissée intacte pour qu'il puisse y avoir un débat. C'est en effet l'intégrité de mon libre arbitre qui fait que je suis l'objet d'un débat et non pas simplement d'un combat. Et en deuxième lieu, il faut aussi que la tentation soit un peu sélective. Une tentation est sélective, au lieu qu'un besoin ne l'est pas. Un besoin instinctif n'est point sélectif, n'est point spécifié, n'est point spécialisé. Un homme affamé a besoin de nourriture en général. Il ne cherche pas à savoir si le pain est assez cuit. Et si le riz est fait comme il devrait être fait, en général, il a faim de la nourriture en général, de la nourriture en soi, considérée abstraitement comme un moyen de satisfaire sa faim. Donc, à cet égard, le choix des aliments et leur qualité sont un luxe de la tentation. L'homme tenté est toujours tenté par une certaine nourriture, par un certain objet. C'est ce joyau qu'il lui faut. C'est cette femme qu'il lui faut, si j'ose comparer ici les nourritures, les femmes et les joyaux. Les auditrices m'excuseront. Mais il ne s'agit que d'un ratio, d'ailleurs, une femme pourrait dire l'inverse, pour un homme. Il s'agit donc d'une prédilection. La tentation est une prédilection, implique une préférence. Une préférence toujours particulière, une préférence capricieuse, bien que le besoin atrophique soit toujours à la racine, dans le fondement de la tentation. Naturellement, même dans la tentation, je ne serais pas tenté, même par tels ou tels objets que je préfère à d'autres, si je n'étais pas un être qui a besoin de manger, un être trophique. Je vous rappelle, et vous le savez d'ailleurs mieux que moi, que Jésus est conduit au désert affamé. On le met en condition, si j'ose dire. On le met à la diète pendant 40 jours, de façon à ce que la tentation s'exerce sur un organe, sur la famine, sur un fond de famine. La tentation va s'exercer sur un fond de famine. Jésus est affamé, n'est-ce pas? Donc, les prestiges de la tentation eux-mêmes n'ont de prise et n'ont de sens que par rapport, malgré tout, à un homme qui a faim, et surtout pour un homme qui a faim. Mais tout le reste, c'est du luxe, n'est-ce pas? En vérité, ce que ensuite Satan fait miroiter devant Jésus, ce sont des choses exceptionnelles, particulières, prodigieuses. Ce sont des pouvoirs prodigieux, au-delà du nécessaire. Par exemple, c'est la métamorphose des pierres en pain. C'est plus qu'il n'est nécessaire. Un seul pain suffirait quand on a faim, n'est-ce pas? Mais Satan lui fait miroiter encore plus la possibilité de transformer des cailloux eux-mêmes en pain. En deuxième lieu, la victoire sur la pesanteur. Et en troisième lieu, l'hégémonie du monde, enfin, les dominations, les empires, c'est-à-dire bien plus qu'il n'en faut à un bon bourgeois. Et ainsi, la tentation retrouve, malgré tout, son caractère luxueux, n'est-ce pas? Au-delà du besoin atrophique, qui n'est pas encore la tentation, il apparaît que même dans la tentation de Jésus au désert, est rendu visible le côté luxueux, exceptionnel, sélectif et proprement humain de la tentation. Mais cela est encore plus vrai d'Adam au paradis, puisque je compare toujours ces deux exemples, d'ailleurs parfaitement incomparables, mais dont le rapprochement nous permet de saisir des aspects nouveaux. Jésus est au désert et est affamé, mais Adam au paradis c'est le contraire. Adam non seulement il n'est pas affamé, mais il est comblé, lui, il est repu, il n'a besoin de rien. C'est là la véritable tentation. La véritable tentation est celle qui a prise non point sur la famine, non point la tentation, comme nous disons, sur fond de famine, mais la tentation sur fond de contentement, de félicité, de satisfaction. Surtout, il n'a besoin de rien, pas même de manger un fruit. Il pourrait même avoir besoin de manger une pomme juste à ce moment. Pour se rafraîchir, par exemple. Eh bien non, il n'a besoin de rien, et même pas besoin de ce fruit. Et donc, ici, la tentation apparaît sous une forme paradoxale et vraiment perverse, n'est-ce pas? La perversité de la tentation, c'est qu'elle s'exerce sur quelqu'un qui est véritablement comblé, sur un fond de satisfaction. Adam n'est point, lui, mis en condition, comme nous le disions, mais il a envie de quoi? Il a envie précisément de cette pomme-là. Il a envie précisément du fruit qu'on lui défend. Et en effet, le principal attrait du fruit défendu, ce n'est point de sentir bon, ce n'est point d'avoir une belle apparence, ce n'est point d'être parfumé, mais c'est d'être défendu. Parmi toutes les qualités de ce fruit, il y en a une qui ne ressemble pas aux autres, qui est invisible, et qui pourtant est son principal attrait, c'est le veto dont il est l'objet.